se lasse pas de ces choses-là.
Ici, ICI. Une radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 2h.
Décibel, c'est l'émission d'actualité musicale inratable de votre radio préférée. Ici, enfin inratable, parfois on l'a raté et c'est pour ça qu'à cette heure-ci, on écoute ensemble les meilleurs moments.
Ici,
avec Émilie Mazoyer,
c'est Décibel. One, two.
Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Décibel. On est en direct ensemble jusqu'à 21h et c'est la musique qui nous réunit ce soir. Des nouveautés, des grands classiques en français, en anglais, en duel, en jeu, en blind test, mais de la musique tout le temps. Alors, notre invité de ce soir, il s'appelle Julien Dassin, c'est le fils du chanteur Joe Dassin. Publie aux éditions de l'Archipel un témoignage très émouvant, Il était une fois nous deux. Ça parle de Joe Dassin, évidemment, sa vie, son œuvre, ses femmes, ses potes, ses voyages, tout ça dans l'œil aimant et admiratif d'un fils qui a perdu son papa bien trop tôt. Julien Dassin est notre invité. Et oui, on écoutera Joe. Allez, Joe Dassin qui est mort il y a 45 ans en 1980 et pourtant il est toujours dans vos playlists et dans vos meilleures fêtes, notamment avec cette chanson Dans les yeux d'Émilie. On va en parler, on va se réjouir de ça avec Julien Dassin. Il est donc ce soir l'invité de Décibel. Et puis on terminera, comme d'habitude, l'émission en concert, le festival idéal qui vous attend pour la fin de l'émission à 20h45 avec trois concerts de qualité, les Who, Johnny Hallyday et Jeanne Chéral.
Toute la ville t'appartient, tu le sais bien, la ville t'appartient, tu le sais bien.
Jeanne Chéral qui reprend Lucie, un classique de Daniel Balavoine. Johnny Hallyday chantera le pénitencier. Les Who, ce sera Behind Blue Eyes. Les Who avec un orchestre symphonique, c'est très beau, enregistré à Wembley. Voilà le programme du festival idéal. Ça, c'est la toute fin de l'émission, entre 20h45 et 21h. Également au programme de ce 9 juin, un petit clin d'œil à Barbara, puisque c'est l'anniversaire de sa naissance. La découverte du jour, une rappeuse, chanteuse très talentueuse, elle s'appelle Théodora. Un duel de duo de Paul McCartney, qui s'est toujours très très bien associé avec des artistes talentueux. Un top 5 autour de Nantes, parce que les groupes qui viennent de Nantes, il y en a un paquet et on les aime beaucoup. Donc ils sont ce soir dans notre top 5. Et puis on va jouer au blind test tout à l'heure à 20h30. Si vous voulez gagner le livre de notre invité Julien Dassin, appelez-nous dès maintenant pour vous inscrire au blind test. Le numéro du standard d'ici, 0810 055 056. C'est Laura qui vous attend au standard, 0810 055 056. Vous vous inscrivez maintenant et on joue à 20h30. Mais là, à 19h09, il est grand temps de lancer la première chanson de l'émission. Elle s'appelle Az. Az, ça s'écrit A-S, c'est une chanson qui au départ est chantée par Stevie Wonder sur son album culte Songs in the Key of Life en 76-77. Et puis, Mary J. Blige et George Michael ont eu le bon goût en 1999 d'en enregistrer une version absolument délicieuse, une magnifique chanson d'amour. Je t'aimerai toujours, c'est en gros ce que ça raconte. George Michael, Mary J. et la chanson As. Et bienvenue ici.
As around the sun, the earth knows she's revolving, and the rosebuds know to bloom in early May. This is ain't no love's a cure, you can rest your mind sure that I'll be loving you always. As now can't reveal the
C'est paradisiaque, je trouve. Leur voix ensemble, l'anglais George Michael et l'américaine Mary J. Blige qui reprennent donc ensemble une très jolie chanson de Stevie Wonder. Ça s'appelle As et c'était la première chanson de l'émission, chanson d'amour du soir. Bonsoir.
Ici le soir, Décibel. Toute l'actu musicale.
Et avant d'accueillir mon invité, Julien Dassin, je vous mets au boulot, les amis. C'est l'heure du duel. Deux chansons face à face. Une seule diffusée tout à l'heure à 20h20. Et ça va être à vous de choisir laquelle. Le thème du duel de ce soir, les duos de Paul McCartney, l'ex-Beatles, qui a toujours très bon goût quand il s'agit d'enregistrer des duos. J'en ai choisi deux. Ça va être à vous de me dire lequel on écoutera. Vous pouvez choisir Say, 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 son duo avec Michael Jackson au début des années 80. Avant son duo avec Michael Jackson, Paul McCartney avait sorti Ebony and Ivory avec, on parlait de lui à l'instant, Stevie Wonder. Ebony and Ivory live together in perfect. Oh là là, c'est tellement dur de choisir, j'aimerais pas être à votre place. Moi, je sais pas les départager. C'est pour ça, c'est à vous de le faire. Rendez-vous donc sur le compte Instagram de l'émission. Ici, Décibel, avec un S à la fin de Décibel. Et en story, vous trouverez le sondage. Vous n'aurez plus qu'à cliquer en votre âme et conscience sur Maca et Michael Jackson ou Maca et Stevie Wonder. Vous avez une heure et des brouettes pour voter. On écoute la chanson gagnante à 20h20. Et pour vous présenter mon invité de ce soir, eh bien, je vais le citer dans son livre qui vient de sortir. Il était une fois nous deux. Il dit « Julien Dassin, c'est moi. Joseph Aira Dassin, c'est le père que je n'ai pas eu. Joe Dassin, c'est l'artiste que j'admire et l'homme qui peut aussi m'apparaître comme un modèle lorsque j'interroge ses amis, lequel me renvoie une image de droiture et de travail. Bonsoir Julien Dassin.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être ici dans Décibel. Vous avez publié aux éditions de l'Archipel un témoignage et une enquête super touchant. Il était une fois nous deux, Joe Dassin, mon père. Alors Joe Dassin, pour le coup, c'est un artiste qui est pas loin de faire l'unanimité dans notre joli pays, de ses tout premiers tubes.
Tagada, tagada, voilà les Dalton. Tagada, tagada, voilà les Dalton. C'était les Dalton.
Joe Dassin, le seul, l'unique à sortir des chansons qui donnent envie de se faire larguer.
On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain.
Joe Dassin, le roi du slow qui tue.
Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais.
Joe Dassin qui, 45 ans après sa mort tragique et prématurée, est le roi du streaming et est chanté dans les écoles.
Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Dans Paris, à vélo,
Julien Dassin, vous êtes né l'année de la mort de votre père.
Exactement, je suis né 5 mois avant son décès.
C'est ça, il est mort, alors on connaît l'histoire, hein, dans un moment pour lui de joie, dans un endroit qu'il aimait plus que tout au monde, c'est Tahiti.
Tahiti, oui.
Et dans une circonstance qu'il aimait aussi beaucoup, c'est-à-dire...
avec ses amis.
À déj, avec ses potes.
Voilà. À déjeuner avec ses amis, sa mère. En fait, il avait emmené sa mère, donc ma grand-mère, pour la première fois à Tahiti, pour lui montrer un terrain qu'il venait d'acheter.
Ouais, c'est ça.
Il aurait... plus tard, je pense qu'il aurait construit quelque chose. Peut-être qu'il aurait passé sa retraite là-bas, je n'en sais rien.
C'est ça, un endroit Taha qui a l'air magnifique, une petite île en face de Bora Bora. Et voilà, c'était sans doute son lieu préféré de la planète. Donc malheureusement, terrassé par une crise cardiaque, il meurt là en 1980. Vous avez 5 mois et vous racontez dans ce livre beaucoup de choses. Ça parle de Joe, sa vie, son œuvre, ses femmes, ses potes, ses voyages. Ça parle de vous aussi, ça parle de votre construction. Et finalement, c'est un petit peu une enquête puisque vous allez récolter les témoignages des uns, des unes, des autres, des amis, des collègues. Tout le monde ne vous raconte pas la même chose sur lui. Hein.
Non, et c'est surtout, je voulais faire parler, interroger des gens qui n'ont jamais parlé, des amis. Pas un énième biographe qui a rencontré un autre biographe et au final, tout est un peu décousu.
Bien sûr.
Et je voulais savoir l'homme qu'il était. Parce qu'au final, l'artiste, je le connais aussi bien que vous, aussi bien que le public, mais je voulais vraiment connaître l'homme. Qu'est-ce qu'il aimait, qu'est-ce qu'il n'aimait pas. Et comme le public, c'est un peu un membre de ma famille, finalement, s'ils connaissent mon père aussi bien que moi, bah, j'avais envie de leur donner.
Ouais.
Des choses que moi je sais et qu'eux ne savent pas.
C'est très beau et très généreux. Et effectivement, quand vous mettez votre casquette d'enquêteur, vous avez en plus quelque chose que tous les autres n'ont pas, toutes les intelligences artificielles, tous les gens qui pourraient récolter tout un tas de détails, de chiffres, etc. C'est que vous êtes de lui, en fait, son sang coule dans vos veines. Donc vous avez sans doute une sensibilité et un instinct aussi qui vous fait parfois douter de certains témoignages. Ça, vous le dites pas mal dans le bouquin que... En fait, il y a pas mal de gens qui ont raconté un peu de n'importe quoi.
Il y a eu beaucoup de n'importe quoi. Le pire, pour moi, c'était la raison de son décès. Mais vous savez, un artiste, il n'a pas le droit de décéder normalement, comme tout le monde.
Oui, faut que...
Donc on rajoute plein d'histoires. Et là, non, il est décédé d'une crise cardiaque. Il avait déjà eu plusieurs alertes.
Oui, vous dites qu'il avait un souffle au cœur.
Oui, tout à fait. Ouais. Même son médecin à l'armée avait décelé une faiblesse du cœur.
Ouais.
Donc vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Et on a entendu tellement de choses sur sa mort, alors qu'il est mort bêtement d'une crise cardiaque et pas de toutes ces affabulations.
Ouais. Donc vous étiez un tout petit bébé quand il est mort, et puis ensuite, à l'âge de 15 ans, vous avez perdu votre maman, qui, imagine, était une source aussi intéressante et incomparable pour mieux connaître votre père. Est-ce que en 15 ans, avec elle, parce que finalement, l'enfance et l'adolescence, c'est pas forcément le moment où on va gratter dans ses racines, vous avez eu le temps de beaucoup parler à votre maman ou pas?
Oui, elle nous parlait beaucoup de sa jeunesse, de comment elle l'a rencontrée,
Vous le racontez, voilà. C'est génial.
C'est pareil. Ça, on a entendu,
c'est une série Netflix, La Rencontre. Il y a plein d'épisodes.
Exact.
<j'aime bien.
rire> Et il y a eu plein d'histoires sur leur rencontre. Et là, je dévoile la vérité.
Ouais.
Sur leur rencontre. Oui, ma mère me parlait beaucoup de mon père. Mais on n'en parlait pas. C'était pas tous les jours. Hein. C'était pas une icône. On vivait pas sous l'ombre du père. Elle en parlait comme n'importe quelle maman parlerait d'un papa à son enfant.
Et vous osiez poser des questions?
Ah bah évidemment, je posais des questions. Ah oui, ouais. Non, il n'y avait rien de tabou. Je posais plein de questions. Mais après, à 15 ans, enfin même plus jeune...
C'est ça. C'est pas la période où on pense aux questions existentielles.
Pas du tout. Ouais. C'est plus en vieillissant, arrivé vers l'adolescence, vers les 15-16 ans effectivement, où là on se rend compte qu'on a une vie qui est un peu différente de celle des autres. Je prends toujours l'exemple, à l'école j'avais des copains, les parents étaient boulangers, pâtissiers, ils faisaient tout plein de métiers différents, et le mien passait à la télé. Pour moi c'était normal,
ouais.
Mais arrivé à l'adolescence, on vous fait comprendre que c'est pas normal.
On va continuer à discuter avec vous, Julien Dassin, et de comment justement vous avez fait à 15 ans, vous retrouvant adulte, chef de famille et puis gardien du temple finalement, Joe Dassin. Mais on va l'écouter aussi. Siffler sur la colline, ça vous va?
Impeccable.
Ah, j'adore, c'est une de mes préférées, c'est parti. Joe Dassin. Wow, wow, siffler sur la colline, c'est parti.
D'un laurier, elle gardait ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit: c'est une roulée dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. À la foire du village, un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier, et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans. Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai.
Siffler sur la colline, zaï 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 zaï, les amis, on la connaît par cœur. Et Julien Dassin qui est notre invité aux éditions de l'Archipel, donc vient de sortir ce « Il était une fois nous deux », Joe Dassin, mon père. Je l'ai pas dit, mais vous partagez aussi dans le livre des photos d'archives, des photos de vous, bébé, de vos parents. Est-ce que ça a été des moments de joie d'écrire ce livre, ou est-ce que c'est mi-figue, mi-raisin?
Non, c'est beaucoup de joie, parce qu'à chaque fois que je découvrais quelque chose, j'étais content.
Ouais.
J'apprends quelque chose de supplémentaire sur mes parents, pas que sur mon père, mais sur ma mère aussi. Et évidemment, mon grand-père Jules, j'en apprends quasiment tout le temps. Tout le temps, j'apprends de nouvelles choses, les langues se délient aussi. Certains amis qui sont dans ce livre que j'ai interrogé m'ont dit « Ah, enfin tu viens nous poser la question ».
Il y a Claude Lemel, notamment son parolier historique, qui parle beaucoup et qui dit des choses qu'il n'avait jamais dit à personne.
Exact.
Je l'ai eu dans ce siège il y a quelques mois et j'ai posé des questions sur votre père, il ne m'a rien lâché. Mais à vous, il l'a dit. À lire donc dans « Il était une fois nous deux », Joe Dassin, mon père, signé Julien Dassin aux éditions de l'Archipel. On continue à en parler dans Décibel dans une petite trentaine de secondes. À tout de suite.
no avail. That's why I'm telling you this sorry tale. It went bang, I said shut up. It went bang, I said wrap up. Well, I'm aware that the guy must do his work, but the part of a man drove me berserk. He said captain, I said what? He said captain, I said what? Are the ones undressed. Well, hello, Adam, where you been? I said, stand aside, cause I'm a feeling mean. I had a gut full of you and I'm a feeling bad. But you're an ugly old pirate and ain't I glad? He said, captain, I said, what? He said, captain, I said, what? He said, captain, I said, what? He said, captain, I said, what you want?
Chaque soir,
toute l'actu musicale est dans Décibels.
Émilie Mazoyer.
Il est 19h26 et vous écoutez ici. Bravo pour votre bon. Vous récompensé ce soir par la présence de mon invité, Julien Dassin. Alors, on a fêté un anniversaire la semaine dernière, Julien, vendredi dernier, très exactement. L'été indien a eu 50 ans. Alors, pour marquer le coup, il y a une compilation de 8 versions qui était donc disponible dès vendredi. Est-ce que c'est le genre d'opération pour lesquelles vous devez donner votre accord? Je disais tout à l'heure, vous êtes un peu gardien du temple d'Assin. C'est donc à vous de décider ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas.
Exactement.
De son héritage artistique.
Ben, exactement. Je donne mon avis sur les versions.
Ouais.
Là, c'est donc l'été indien, mais dans toutes les langues.
C'est ça.
Parce que ce qu'on sait très peu aussi, c'est que Joe Dassin était polyglotte. Il parlait 7 langues. Mais 7 langues courantes.
Oui, c'est ça, il parlait bien.
C'était,
baragouinait
il était
pas trois.
Brillant,
ouais.
brillant.
Et diplômé aussi, vous le racontez.
Et diplômé.
D'ethnologie, c'est ça?
C'est ça.
Ouais.
Et il était très brillant, mais dans sa vie privée, c'était un bout en train. Son meilleur ami était Carlos,
oui.
Qui lui aussi était brillant.
Oui. Mais très bout en train pour le public.
Et les deux, ouais. Et les deux ensemble, c'est il y a toutes les images des Carpentiers qui sont à mourir de rire.
Oui, c'est ça. Ils aimaient bien se déguiser aussi.
Oui, oui. C'est quelque chose que je pense qu'on ne pourrait pas refaire aujourd'hui.
Ça, c'est sûr. En attendant, si vous voulez célébrer les 50 ans de l'été indien, sachez que donc les versions disponibles, alors par exemple en allemand. On a un remix aussi électro d'un artiste très prometteur qui s'appelle Georges. Caravelli aussi, qui est le spécialiste depuis des années des réorchestrations de chansons, a mis son grain de sel à l'été indien. Voilà, il y a 8 versions en tout, mais il y en a une qui n'est pas sur cette EP, mais que moi je vais vous faire découvrir. C'est la version de Julien, mon invité. Il a chanté l'été indien, bien sûr.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien.
C'était sur l'album de 2019 qui s'appelle Globetrotter.
Exact.
Ce que je n'ai pas dit depuis votre arrivée, Julien Dassin, c'est que vous chantez, alors pas seulement le répertoire de votre père d'ailleurs, ça a été une vraie question pour vous?
Alors maintenant, je vais vous contredire, maintenant oui.
Oui, mais vous n'avez pas chanté
que...
Je n'ai pas chanté
les chansons de mon père. Au début, j'ai commencé par un tour de chant français, dans lequel il y avait Montand, Piaf, Aznavour... Et je chantais une ou deux chansons de Joe Dassin. Et là, c'est le public qui m'a dit « Mais pourquoi qu'une seule? Pourquoi que deux? Une troisième, une quatrième ?» Et au final, c'est devenu un tour de chant complet Dassin. Et ça marche dans le monde entier.
Et qu'est-ce que ça vous procure à vous quand vous travaillez des chansons de votre père, quand vous les chantez, quand vous voyez en plus la joie du public? Vous l'avez dit, dans le monde entier. Ça fait quoi? Vous avez la sensation d'être un passeur?
Un petit peu, oui. Là, par exemple, je reviens des États-Unis. Mon père, qui était américain, aurait rêvé de pouvoir faire une carrière aux États-Unis. Il n'y est jamais arrivé.
Il est enterré à Hollywood, d'ailleurs.
Il est enterré à Hollywood. Ouais. Et moi, je viens de faire une tournée aux États-Unis.
Oui.
Donc, c'est un passage de relais, un passage de flambeau, je ne sais pas comment on peut dire. Et moi, je travaille très, très dur parce que je veux respecter les chansons. Vraiment, ne pas les modifier, ne rien faire, rester le plus proche de l'original possible.
Ouais.
Parce que les gens les aiment comme ça. Donc, qui suis-je pour les modifier?
Alors, il y a des pépites, hein, comme les Champs-Élysées, avec les chœurs de l'Armée Rouge. Ça, c'était en 2015. Ouais. Incroyable.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sur la pluie. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Incroyable ça.
Alors c'est une histoire qui est d'autant plus incroyable. On fait cet album avec les chœurs de l'Armée Rouge et on doit isoler les voix pour pouvoir intégrer les chœurs.
Ouais.
Et on n'a pas la voix de l'été indien.
Des
Champs-Élysées, on ne l'a pas.
Impossible de trouver la bande de la voix de...
On n'a pas la voix isolée. Donc le producteur du disque m'appelle et me dit « Écoute, est-ce que tu veux le faire ?» Je dis « Écoute, oui. » Et puis c'est hyper impressionnant, parce que quand même, vous avez 100 bonhommes qui chantent derrière.
Ça chante, il y a du poumon.
Il y a du poumon. On est parti en tournée. C'était une très belle expérience, ça.
Ouais. Et il y a aussi, alors très régulièrement, des hommages rendus à Joe Dassin, et notamment une compilation en 2020 qui s'appelait « À toi, Joe Dassin ». Et vous y reprenez... Les yeux d'Émilie.
Quand j'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Émilie, je réchauffais ma vie à son sourire, moi.
Alors, ça tombe très bien que vous chantiez cette chanson-là parce qu'elle est un exemple frappant, s'il en fallait, de l'actualité du répertoire de Joe Dassin, que ce soit en streaming, que ce soit en boîte de nuit, que ce soit en troisième mi-temps de rugby.
Les férias.
Voilà, les férias. Cette chanson-là, Les yeux d'Émilie.
C'est incroyable.
Ouais.
Incroyable, parce qu'à chaque fois, je dis, mais est-ce que vous avez écouté les paroles? C'est une chanson qui est quand même super mélancolique.
Mais, un peu triste.
Mais le rythme est là.
Ouais.
Et c'est ça qui, je pense, embarque les gens.
Oui, c'est ça. Et des gens qui sont nés, moi je suis comme vous, je suis née en 1980, qui donc n'ont pas été contemporains de Joe Dassin. Et génération après génération, ça ne se dément pas. Parce que là, sur la Coupe du Monde de rugby, dans les yeux d'Émilie, il y a des mômes de 20 ans qui font la fête là-dessus.
Exact.
C'est incroyable quand même.
On a tous.
C'est quoi le secret? Pourquoi c'est aussi actuel, Joe Dassin?
Nous déjà, les quarantenaires.
Oui. Nous les vieux. Allons-y, Julien.
Moi, je me souviens, déjà, on n'avait pas 1000 radios à l'époque.
C'est pas faux.
Donc,
vous avez la radio des parents.
Et forcément, on entendait Joe Dassin.
Ouais, c'est vrai.
Quand on partait dans le sud, en voiture, à l'école, les enfants apprennent les Champs-Élysées à l'école.
Ouais. Oui, ou la complainte de l'heure de pointe. Ouais.
À l'étranger, j'ai vu dans, je peux même plus vous dire quel pays, des enfants, mais des tout petits, des 10 ans, qui connaissent les chansons par cœur et qui m'ont dit, on les apprend à l'école.
Mais c'est quoi alors? C'est... Bon, déjà, il y a sa voix. Moi, bon, je trouve que c'est un des meilleurs chanteurs français qui... Enfin, français, il était américain, mais voilà, de répertoire français qu'on ait eu, une espèce de voix comme
c'était
ça, très
chaude.
C'était
plus français des Américains.
Voilà, c'est ça. Et puis après, les chansons sont béton. C'est vrai que les compos, c'est souvent des adaptations de grands standards américains.
Beaucoup, voilà. Beaucoup d'adaptations.
Mais les paroles sont belles, quoi.
Les paroles. Ouais. Il était, Lemel disait, il était attachion.
Ah.
C'est-à-dire qu'il pouvait passer une semaine, un mois sur un mot. Il était très, très méticuleux, pardon, sur les textes et les mélodies. Ça, c'était vraiment le choix des mélodies, le choix des textes.
Ouais.
Et bien évidemment, la voix.
Ouais.
Et c'est des chansons. On a tous une histoire avec une chanson de Joe Dassin. J'insiste là-dessus, mais c'est vrai. Quand je vais acheter ma baguette de pain à la boulangerie, la boulangère me connaît. Vous imaginez bien qu'elle me fredonne le truc. Elle me fredonne les petits pains au chocolat. Et j'ai été sur les champs la semaine dernière.
Ouais. Les gens, ils chantent la chanson.
Les gens la chantent.
Oui. Ils savent pas que c'est vous.
Non,
ils la chantent parce qu'ils sont sur les champs.
C'est presque. C'est devenu Les Yeux d'Émilie, un hymne du rugby.
Ouais.
Et Champs-Élysées, un hymne aux Champs-Élysées.
C'est incroyable. Allez, écoutons-la, tiens, cette chanson dans les Yeux d'Émilie, parce qu'elle fait vraiment partie des incontournables en streaming. C'est des scores absolument énormes et qui font que Joe Dassin fait partie des artistes francophones les plus écoutés dans le monde entier. Et vous pouvez chanter chez vous aussi, hein. Lâchez-vous, vous écoutez ici.
Dans son quartier du vieux Québec, les rues ont l'air d'avoir l'accent. Et l'an 2000 voisine avec les maisons grises du vieux temps. Mais l'hiver vient d'éclater, le Saint-Laurent est prisonnier d'un décembre qui va bien durer 6 mois. Quand les jours ressemblent aux nuits, sans éclaircie à espérer, qui peut croire que l'été nous reviendra? Son quartier du vieux Québec, quand les toits deviennent verts, quand les enfants ont les pieds secs, on tourne le dos à l'hiver. C'est la fête du printemps, le grand retour du Saint-Laurent. On dirait que les gens sortent de la terre. Mais Émilie n'est plus à moi, j'ai froid pour la première fois. Je n'ai plus ni sa chaleur, ni sa lumière.
Et
l'audience de Joe Dassin qui se renouvelle sans cesse. Hein. Plus de 40% de ses auditeurs ont moins de 27 ans sur les plateformes de streaming. 60% des streams de Joe Dassin viennent de l'étranger, hors de France. Et en plus, les 50 ans de l'été indien. Donc voilà, il n'a jamais été autant d'actualité, notre bon Joe Dassin. Et son fils Julien Dassin, qui sort donc ce livre aux éditions de l'Archipel. Il était une fois nous deux, Joe Dassin, mon père. Alors, vous avez le sourire quand vous parlez de lui, c'est très beau. Ceci dit, quand on vous suit, vous, votre vie, dans ce livre, on a par moments envie de vous serrer dans nos bras et de vous dire « Oh là là, kikinou !» Parce que donc vous perdez votre papa, vous êtes un petit bébé, votre maman meurt quand vous avez 15 ans, et là vous vous retrouvez tout seul, adulte de fait, parce que voilà. Et il y a notamment un Noël que vous racontez où vous mangez un Big Mac.
Alors c'est...
un Big Mac un peu spécial, enfin un Big Mac quand même, tout seul dans votre salon.
Un macrocini.
Ah ouais. Parce que vous trouviez que le Big Mac c'était pas assez. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Racontez.
Alors, je suis allé me prendre un Big Mac et j'ai rajouté une tranche de foie gras.
On sait vivre en Chine. Non, c'est incroyable ça quand même.
Et c'était bon.
C'est vrai. Et vous avez réitéré l'expérience?
Ah
ou pas?
Oui. Ouais. Oh, pendant pas mal d'années.
Ouais. Non, est-ce que vous racontez plus sérieusement? C'est que donc il y avait cette maison incroyable, hein, la maison de Feucherolles, qui n'était pas encore terminée à la mort de Joe Dassin, mais c'était vraiment une maison qu'il avait imaginée, un truc énorme.
Alors incroyable dans quel sens?
1000 mètres carrés, mais des pièces toutes petites.
Elle était très mal fichue.
Bah oui, enfin.
Une chambre pouvait être plus grande que le salon.
Oui, c'est ça.
Et surtout, c'était démesuré. Les tailles étaient immenses. Il y avait un sous-sol, on aurait dit un parking de supermarché.
C'est ça.
Immense. Et chauffer un truc pareil...
Impossible.
C'est impossible.
Et c'est dans la série des choses dont on a mal parlé, ou en tout cas sur lesquelles les gens qui n'avaient pas d'infos ont tenté de construire des légendes, et là vous racontez tout, vous dites que non, vous avez bouffé des nouilles, des œufs au plat, et que la succession de Joe Dassin, ça n'a pas été fastoche.
Cette maison mangeait tout, voilà, mangeait absolument tout. C'est aussi une période où les disques, forcément Joe Dassin n'étant plus là, et moins présent, c'était une période où il était moins présent en radio, dans les médias, les revenus diminuent, et la maison mange tout ce qui reste. Donc oui, à la fin, ça commençait à être très compliqué.
Oui, puisque vous racontez, c'est que vous n'avez pas voulu essayer de faire le serpent avec la succession, et qu'à un moment, vous avez payé tout ce que vous deviez, parce qu'il fallait. Quoi.
Quand les impôts viennent vous voir en vous disant « Bon, vous nous devez tant », faut les payer, et puis c'est tout.
Oui. Ouais. Donc ça n'a pas été un jackpot comme certains
non,
ont
non,
pu le...
Non, faut arrêter. Et puis les artistes à cette époque étaient un peu... étaient plutôt cigales. Hein.
Vous le racontez bien ça, vous parlez de l'insouciance comme ça des années 70.
Exactement. Il n'y avait pas de demain. Oui. Aujourd'hui, nous, on se dit, qu'est-ce qui va se passer demain? Mais à l'époque... Demain, je suis encore dans une autre ville et on ne pense pas à demain. Ils ne pensaient pas à demain.
Et puis, ils se pensaient tous immortels, en fait.
C'est tout le monde pense ça. Ouais. Hein. Oui. Personne ne pense que demain, il va lui arriver quoi que ce soit.
C'est vrai.
Non, il y a ça. Et cette maison était démesurée façon, vraiment, je dis façon hollywoodienne, parce qu'il voulait faire une maison de famille pour ses amis, pour sa famille, ses sœurs, sa mère.
Ouais.
Et au final, il y aurait été quasiment jamais. Et
elle existe encore, cette maison?
Elle existe encore, oui.
Et il y a quelqu'un qui vit dedans?
Il y a quelqu'un qui l'a prise,
quelques-uns, j'espère, parce que c'est très grand, 1000 mètres carrés quand même.
Oui.
D'accord, elle
existe toujours. Non, il y a quelqu'un qui l'a... Oui, ça existe toujours. Après, ça doit être une grande, grande famille.
Ouais.
Parce que non, vraiment, c'est... Je peux même... C'est inexplicable.
Ouais.
De dire à quel point c'était grand et ça servait à rien.
En tout cas, vous dites, hein, moi j'ai toujours détesté cette baraque.
Ah, moi j'ai toujours détesté.
Voilà.
Non. Donc, moi, à la fin, quand j'étais dans cette maison, je vivais dans la cuisine, quoi. Voilà. Bon, au final, j'étais très moderne.
Oui, c'est
parce que maintenant, on vit tous dans une cuisine.
On vit tous dans une cuisine maintenant, c'est ça. Exactement. Alors, dans ce livre, il était une fois nous deux, Joe Dassin, mon père. Donc, vous racontez votre expérience à vous et puis vous racontez vous allez voir pour poser telle ou telle question pour en savoir un petit peu plus sur votre père. Sachant que, je vous cite encore, Joe n'était pas un menteur. Il jouait avec la vérité comme un poète joue avec les mots. Donc, on a parfois des versions un peu différentes selon à qui on s'adresse.
Exact. un petit côté, on aime bien raconter des histoires, mais je l'ai aussi celui-là.
C'est, oh, c'est agréable.
Oui.
Ben oui, évidemment. Alors, il y a de grands groupes autour de Joe Dassin. Il y a Sega.
On allumait une cigarette et tout s'allumait. Et c'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop dans l'équipe à Jojo.
L'équipe à Jojo, alors que vous vous appelez les hommes de Jo.
Oui.
Et donc, vous nous racontez voilà, quels ont été les hommes importants dans sa vie et ceux avec qui vous avez, même si c'est des liens très forts. Hein.
Oui, bah, j'ai toujours trouvé ça curieux. Mais j'étais sur la fin de sa vie, j'étais copain avec Carlos. On s'appelait, on allait faire des bouffes ensemble, on se voyait très très souvent. Et je me suis dit, pourquoi moi ? En fait, y a dans ce livre aussi, j'explique, pourquoi moi ?
Ouais.
Pourquoi Carlos a fait de moi son ami, alors que je suis le fils de son ami ?
Ouais.
C'est très étrange, on n'est pas amis avec les amis de nos parents.
Non, peu.
Mais, je sais pas, est-ce qu'il a trouvé quelque chose de similaire ou de marrant chez moi ? Je ne sais pas, vraiment, ça c'est... Bon, on s'entendait très bien. Et puis il y a plein de personnes de plus de l'ombre qui ont été très très importants pour lui. Lemel de La Noé, par exemple, ses auteurs
fétiches. Ouais.
Jacques Play, son... comment on dit ? J'ai plus le mot.
Son directeur artistique.
Directeur artistique, merci, ouais, j'allais dire producteur, mais c'est pas ça. Directeur c'est directeur artistique. Qui quand même a été tout le temps derrière lui.
Ouais.
Et lui a fait prendre les bonnes décisions.
Notamment l'été indien.
Entre autres.
Ah ouais. Et puis, il y a évidemment un chapitre que tout le monde attendait. Et non, Julien Dassin n'a pas éludé la question. Les femmes de Jo.
Il y a les filles dans ton rêve et celles avec qui l'on dort. Il y a les filles qu'on regrette et celles qui laissent des remords.
Vous racontez évidemment la grande histoire d'amour avec votre maman. Il y a aussi sa première épouse et puis d'autres femmes qui ont été importantes dans sa vie, comme par exemple la programmatrice d'RTL.
Monique Lemarcy.
Monique Lemarcy, voilà. Donc les femmes sont là. Et puis oui, ses voyages et son public et ses chansons qui sont chantées dans le monde entier.
Aux Champs-Élysées. Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Dans le chapitre qui s'appelle La ferveur du public, vous racontez quand vous êtes en tournée, des gens viennent vous voir avec parfois des vieux vinyles tout cornés, oh, etc.
Il m'est arrivé des histoires.
Ouais.
Je me souviens, j'ai une femme qui vient me voir avec un disque. Mais c'est pas un disque, un vinyle comme on l'entend.
Ouais.
C'était comme une feuille de papier. Elle m'a dit, signez-le. Je me dis, vous êtes sûr ? C'est quelque chose qui est introuvable.
Ouais, c'est un acétate en fait, non ?
On dirait une feuille de papier,
incroyable.
Mais c'est un vinyle.
On pouvait l'écouter, ouais.
On peut l'écouter. Et je dis, mais vous voulez pas que je signe ça quand même ? Je vais pas vous abîmer, c'est une pièce rare. Eh ben oui, ils veulent. Elle voulait que je lui signe... Donc je l'ai fait pour lui faire plaisir. Moi j'y suis allé un peu. Vous êtes vraiment vraiment sûr. J'insistais. Et jusqu'au point de me dire, faut pas que je déborde là pour pas abîmer sa pochette. J'ai eu le droit à tout. J'ai eu le droit à tout. Au Liban, j'ai un jeune homme qui arrive avec un portrait qu'il avait fait. Mais le portrait doit être aussi gros que
le mur du studio.
Le mur du studio. Et je l'ai emmené tant que bien que mal dans l'avion.
Waouh.
Je l'ai fait encadrer et j'ai envoyé une photo à ce jeune homme pour dire voilà, il est bien installé.
C'est sans doute une des plus belles façons de rendre hommage aussi à votre père, c'est de bien traiter son public qui devient votre public.
C'est normal. Vous savez, dans les pays de l'Est, je crois que je suis rentré, ils m'offrent des icônes.
Oh.
Oh bah là, j'ai un bureau, c'est presque une église. J'ai des dizaines et des dizaines d'icônes. Je garde tout. Tout ce que les gens me donnent, je le garde.
Julien Dassin, il était une fois nous deux aux éditions de l'Archipel. Je vous recommande la lecture de ce livre et les jolies photos aussi. Vous racontez tout, hein, vos premiers passages télé, vos concerts et tout ce que vous avez réussi donc à récolter comme information inestimable sur la vie personnelle et l'œuvre de Joe Dassin. Alors avant d'écouter l'Amérique, puisque vous nous avez raconté que lui qui rêvait d'une tournée américaine, vous l'avez faite pour lui et ça c'est très beau. Quels sont vos projets à venir, Julien Dassin?
Eh ben, la France pour cet été.
Ouais.
Et après, bah, je continue ma tournée dans le monde.
Dans le monde entier. Eh bien, bonne route à vous.
Merci beaucoup.
Et merci pour ce beau livre. Joe Dassin chante l'Amérique et Julien Dassin raconte Joe Dassin, mon père, aux éditions de l'Archipel.
Mes amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elle m'attend depuis que je suis né. L'Amérique, j'abandonne sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Cela commence par un peu de chagrin. L'Amérique, mais l'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateau vont chanter sans pour la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique.
Oh là là, quelle beauté! Joe Dassin était à l'honneur ce soir dans Décibel grâce à son fils Julien.
Ici le soir, Décibel. Toute l'actu musicale.
Et avec notre auditeur programmateur Christian, c'est une grande voix belge qui va résonner dans vos oreilles. Bonsoir Christian.
Bonsoir Emily.
Comment ça va?
Pas très bien, il fait très beau.
Ah, ça, c'est déjà une bonne chose de fait, une fois que la météo est gérée, n'est-ce pas?
C'est bon pour le moral.
C'est bonbon. Non, c'est pas celle-là qu'on va chanter. Pas de compagnie créole, mais Morane au programme. Donc avec Christian qui est auditeur programmateur. Je vous rappelle le principe. Vous nous contactez par mail. Notre adresse c'est decibel@radiofrance.com. Decibel au pluriel @radiofrance.com. Et vous nous dites quelle chanson vous avez envie de partager avec les auditeurs, auditrices, et puis surtout que vous allez venir présenter en direct. Ce que fait donc ce soir Christian, qui a choisi une chanson de Morane, mais qui n'est pas le prélude de Bach qu'on écoute quand même très régulièrement, une autre chanson qui s'appelle Trop forte. Alors pourquoi cette chanson, Christian?
Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on l'a vu, mon épouse et moi, deux fois en concert.
Ouais.
Donc à l'époque où c'était tous des mamas et tout ça,
oh.
Et ça marchait très, très fort pour elle. Et donc la dernière fois qu'on l'a vu en concert, c'était en 2016 ou 2017, dans le Morbihan.
D'accord.
Et donc, les gens, le public a réclamé donc le prélude de Bach et elle a refusé parce qu'elle voulait donc faire entendre ses nouvelles chansons.
Ouais.
Et donc là, franchement, faut vraiment trouver, écouter des paroles, comme disait le fils de Joe Dassin un instant, parce que donc ça correspond tout à fait au monde du showbiz aujourd'hui. Et franchement, ça me tient à cœur.
Eh ben merci, parce que Christian, pour être totalement transparente, je ne connaissais pas cette chanson. Pourtant, j'avais reçu Morane plusieurs fois dans mes émissions, mais cette chanson-là, je l'avais jamais écoutée et je l'ai trouvée géniale. Donc c'est à ça aussi que servent les auditeurs programmateurs, c'est à rattraper mes faiblesses. Merci Christian.
Attends, s'il te plaît, Émilie.
Oui, 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 Christian.
Elle est trop forte parce qu'elle a trouvé le. Elle avait déjà deviné le nom de votre nouvelle radio.
Ici, exactement. C'est vrai, Christian. On déguste ensemble donc cette chanson de Morane, trop forte, grâce à Christian. Christian, gros bisous, merci. Hein.
Merci, bonne soirée.
À très bientôt. Place à Morane, qui nous a quittés en 2018.
On est toujours trop quelque chose ou pas assez. Toutes ces portes à pousser larges comme des chats d'aiguille. Les barrages à passer, faudrait être une anguille. Un peu maigre, un peu lisse, pour entrer comme Alice au pays merveilleux. Au pays merveilleux. On nous farcit les yeux sur affiches sous vitrine, d'espèces de drôles de tiges qui se collent des vertiges. À force d'être au régime, on est toujours trop quelque chose, trop pas assez. J'ai connu toutes les appellations contrôlées, dès la cour de récréation, ça trempe le caractère. La bonhomie des gros, c'est rien que de la colère, stockée sous la peau, sous la peau. M'inventer des mots de remplacement pour mieux nous insulter. Correct politiquement, t'es pas grosse, non t'es ronde, corpulente, enveloppée. L'hypocrisie du monde aussi, je la connais. Je la connais.
Elle parle français, hein, Morane. C'est bon, hein. Et c'était le choix de Christian, notre auditeur programmateur. C'est l'heure de la chanson anniversaire. Nous sommes le 9 juin. C'est l'anniversaire de Matthew Bellamy, le chanteur de Muse. On va donc pas bouder notre plaisir et on va écouter Feeling Good version Muse, ce grand groupe de rock anglais qui jouera dans 10 jours, tout près de Nantes, au festival Hellfest.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky. Drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling
you.
c'est la version incroyable de Feeling Good de Nina Simone en 65, mais celle de Muse au tout début des années 2000, c'est quand même quelque chose. Feeling Good à l'instant.
Soleil.
Porque trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón.